c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Kaolin FM avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin But de Saint-Thierry et la Perche. Ameublement, literie, électroménager, décoration et pour tout projet de cuisine. L'équipe de projet et conception vous attend. Zone commerciale d'Arfeuil, route de Limoges à Saint-Thierry et la Perche.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute en écoute la télé l'hebdo sur Kaolin où vous nous écoutez chaque lundi à 14h et 19h par exemple et bien du côté de Saint-Thierry-la-Perche sur le 88.4 ou à Rochechouart sur le 88.9. Alors pendant une heure on va passer bien en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors ça tombe bien, tout de suite le sommaire de notre émission.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et c'est donc un bonheur pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute en écoute la télé à l'hebdo avec donc au sommaire aujourd'hui une large partie de cette émission consacrée à la sortie du film 30 jours max. Le deuxième film de Tarek Boudali est en haut de l'affiche cette semaine dans notre émission puisque Tarek va être avec nous d'ici quelques instants. Il vient pas seul, il sera accompagné de José Garcia, Vanessa Guide et Julien Arruti. Nous aurons le plaisir également de parler d'Infidèle, c'est le grand final de la saison 2 sur TF1, ça sera jeudi. Tom Leb, le beau gosse de cette saison 2, eh bien, sera notre invité. On parlera avec lui évidemment comédie mais aussi musique puisqu'il devait représenter la France à l'Eurovision. Il nous dira tout sur ses projets. Nous aurons le plaisir également de recevoir Thierry Ragnaud. Il fait son grand retour dans le rôle de François Marcy dans Plus belle la vie. Ça sera à l'écran dès demain sur France 3 et Thierry Ragnaud, après 14 ans d'absence, viendra tout nous dire sur les coulisses de ce grand retour inespéré pour les fans. Et puis nous aurons Nicolas Picard Dreyfus également qui a réalisé le dernier épisode de cette saison, de cette mouture des petits meurtres d'Agatha Christie. Alors au revoir Samuel Labarde, Blandine Bellavoir et Elodie Frank. Et il va tout nous dire bien évidemment et bien sur les coulisses de ce dernier épisode qui s'annonce musical. Je ne vous en dis pas plus, mais tout de suite un petit détour vers les audiences de la semaine dernière avant d'accueillir l'équipe de 30 jours max. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et on commence par lundi dernier et c'est donc la série Le Mensonge avec Daniel Auteuil qui arrive en tête des audiences avec 4 683 000 téléspectateurs et 20,3% de part de marché, très loin devant L'Amour est dans le Pré qui fait 3 743 000 et 17% de part de marché. C'est un beau score malgré tout pour M6. Et puis Le Volcan sur TF1, eh bien fait petite recette, hein, 3 560 000 téléspectateurs seulement et 15,6% de part de marché. Petit score pour Secret d'histoire avec seulement 1 802 000 téléspectateurs et 8% du public. Mardi, il y avait Good Doctor sur TF1. TF1 retrouve des couleurs avec 4 117 000 téléspectateurs et 19,3% du public, loin devant Maison à vendre sur M6 qui, malgré ses 13% de part de marché, fait quand même un beau score avec 2 757 000 téléspectateurs. Le documentaire Décolonisation du sang et des larmes fait un beau score également sur France 2, 11,8% du public et 2 617 000 téléspectateurs. Il y avait du tennis sur France 3 qui a continué de captiver jusqu'à tard. Eh bien, 1 411 000 téléspectateurs et 9,1% de part de marché. Du football, il y avait donc sur TF1 le match amical France-Ukraine. C'était mercredi dernier et c'est 20,8% de part de marché et 4 547 000 téléspectateurs. Mais Alex Hugo sur France 2 résiste bien, même en rediffusion, avec 4 197 000 téléspectateurs et 18,4% du public. Le meilleur pâtissier, eh bien, s'en sort toujours aussi bien sur M6 avec 13,7% de gourmands et 2 725 000 téléspectateurs. Et puis, sans surprise, jeudi, c'est Infidèle qui arrive en tête des audiences et vendredi, c'est donc Koh-Lanta. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière et tout de suite, c'est l'heure de retrouver notre spécial 30 jours max. José Garcia, Julien Arruti, Vanessa Guide et Tarek Boudali débarquent tout de suite dans Chute en écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui dans Chute en écoute la télé, consacré évidemment au film 30 jours max. Tarek Boudali est quelqu'un qu'on suit depuis ses débuts. On est toujours avec lui pour ses projets. Il est justement notre invité. Bonjour Tarek, merci d'être avec nous.
Bah, merci déjà. Tu commences très bien. T'as été très gentil en disant que c'était ton coup de cœur, donc ça fait plaisir.
Merci beaucoup. C'est notre coup de cœur ciné de cette semaine. Et en plus, tu nous fais un beau cadeau parce que t'es pas venu tout seul. Tu es venu avec Julien Arruti. Fidèle aussi.
Bonjour, oui, toujours fidèle. Et vive La Rochelle.
Et on est venu aussi avec José Garcia. Là, c'est un copain de l'émission aussi. Bonjour, mon José.
J'ai une étape maintenant, on peut le dire.
C'est ça. Tu vas bien, José?
Marin dans l'âme, absolument.
Bon. Et puis alors, franchement, on garde le meilleur pour la fin? Ah bah oui, Vanessa Guide qui est avec nous aussi, on a toute une partie de l'équipe, bonjour Vanessa.
Salut, merci beaucoup La Rochelle.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Alors Tarek, déjà moi j'aimerais te poser cette première question. Comment est né ce projet de 30 jours max?
Bah c'est parti d'une question que je me suis posée un jour. Qu'est-ce que je ferais s'il me restait peu de temps à vivre? Voilà, et je me suis dit bah pourquoi pas en faire un film, notamment une comédie. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ.
Alors on est vraiment sur une vraie comédie, on rit beaucoup, beaucoup de rythme aussi, c'est ce que j'ai trouvé en ayant eu la chance de voir le film avant tout le monde. Alors on part de Ryan, on peut dire c'est vraiment le loser.
C'est un loser, voilà. C'est, tu sais, dans les comédies, en général, le protagoniste, il est souvent loser. Et je pense que c'est là où on s'attache le plus au personnage.
C'est vrai.
Et puis c'était intéressant aussi pour moi de partir de ce côté un loser pour justement bien montrer son évolution tout au long du film.
Alors, on a José Garcia qui d'habitude, des fois, joue des rôles de gentil, mais alors là, c'est le rat. Et le rat, c'est un méchant.
Le rat, c'est moi.
Le rat, c'est toi, José.
Rat.
On n'a pas l'habitude de te voir comme ça, ou là, c'est carrément menaçant.
Oui. Il faut autre temps, autre meurt. Là, maintenant, il faut attaquer les méchants. J'ai mon époque douce. Je suis un peu dans ma période bleue en ce moment. Voilà. Donc, je fais des personnages un peu plus... Non, ça fait très longtemps que j'avais pas eu l'occasion qu'on me fasse confiance pour pouvoir créer un personnage de comédie. Et c'est vrai que de nos jours, c'est vrai que les méchants sont assez intéressants parce qu'ils permettent encore de garder une facette un peu forte par rapport aux thèmes qui sont abordés aujourd'hui dans les films, dans les comédies. Voilà. Donc, c'est la période bleue en ce moment-là. Je mets des castagnes, je distribue des pains, je file des marrons. Voilà, c'est le printemps.
Alors on a Julien Arruti qui joue le rôle de Pierre, le fidèle écuyer de Tony, qui vient un peu essayer de remettre un peu l'enquête à l'endroit. Enfin du moins il essaye. Et on peut dire que Pierre c'est vraiment le chevalier servant par excellence de Tony, hein, alors, qui est joué par Philippe Lachaud.
Oui, mais alors tu as un propos qui est extrêmement élogieux. Donc le chevalier servant, nous on appelle ça un lèche-cul.
Oui. Et j'ai voulu la jouer élogieux, t'as vu?
Ouais, bah je te remercie, je préfère ces termes-là. Non, ouais, c'était très marrant parce que du coup, de jouer un lèche-cul, c'est plutôt rigolo. Et avec Philippe, on s'est bien amusé parce que du coup, il y avait une vraie complicité qui se faisait. Et c'était cool d'avoir le groupe avec Tarek et Vanessa, du coup, d'être dans l'aventure ensemble. On s'est bien marré. Et Philippe, lui, il est pas là, il vous embrasse tous très fort. Mais il s'est bien marré aussi, il m'a dit, il t'a dit aussi à toi, Tarek, de jouer l'espèce de kéké, connard, ça lui changeait un petit peu. Et alors, Tarek, il dit qu'il s'est inspiré de nous, mais je suis pas sûr.
Julien, c'est un peu un lèche-cul dans la vraie vie. Et Philippe, c'est un peu un connard aussi dans la vraie vie.
Ouais. Ah, écoute, je peux pas te laisser dire ça parce que quelque part, Philippe, hein, c'est pour une fois qu'il est pas là pour défendre un film dans notre émission. Hein, franchement, vous en profitez pour le débiner, c'est dingue ça.
Écoute, j'en ai surtout profité dans le film pour le déminer.
Oui, vu tout ce qui t'a fait subir, remarque dans les siens.
Voilà, c'est ça. Dans Nicky Larson, il m'avait donné un rôle où voilà, il m'a mis en valeur. J'étais beau, j'étais intelligent. Écoute, je me suis vengé sur celui-ci.
T'as bien eu raison, Vanessa. On va parler de Stéphanie. Alors Stéphanie, c'est un peu, il est amoureux transi de Stéphanie, le personnage de Ryan, et tu joues une flic bien trempée et en même temps, t'as eu le droit là pas mal aux cascades, un peu comme dans No Limit, toi pour le coup. Hein.
Oui, c'est vrai, ça m'a un petit peu rappelé la joie que j'avais pu avoir dans No Limit à faire beaucoup de cascades aux côtés de Vincent Elbaz. Et ça me manquait beaucoup, ça. J'adore vraiment, j'aime les rôles qui nécessitent de s'investir vraiment physiquement, au-delà de vraiment répéter le texte et tout ça. J'aime les préparations physiques avant un tournage, comme des garçons où j'avais appris à jouer au foot pendant 6 mois en amont ou tout ça. Et là, ben oui, j'ai adoré apprendre cette chorégraphie de danse. Ils se moquent de moi, les garçons. Ils n'imaginent pas du tout jouer au foot, j'imagine. Mais bon, j'avais dû apprendre cette chorégraphie de danse et la petite scène de baston, mais voilà, qui a quand même nécessité un petit peu de répétition. Et c'est chouette. Et oui, j'aime beaucoup ce personnage, qui est à la fois une femme forte et un peu le seul cerveau pensant de la bande.
C'est pas mal dit, ça.
Voilà, voilà.
Bon, t'as dû beaucoup t'amuser, Tarek. Moi, il y a des choses qui m'ont surpris dans ce film, parce qu'il y a des scènes de course-poursuite, il y a eu des choses à tourner, mais franchement, t'as dû t'amuser quand même.
Écoute, oui, en tant que réalisateur, c'était plutôt cool parce que j'ai pu aller au bout des choses tout simplement, les choses que je voulais faire, je les ai faites. Et ce qui était très cool aussi sur ce film, c'est que j'ai pu faire mes cascades moi-même, donc je suis très content et je suis pas peu fier. Là, j'ai même passé mon permis moto pour la séquence de moto justement.
Celle où t'es passé à travers le plancher aussi. Sans trop spoiler, mais...
Ouais, j'ai fait.
Et t'es là, bien descendu, là.
Et là, pour le coup, c'était même pas câblé, pour te dire la vérité.
Ah ouais, carrément.
Non, d'accord. C'était même pas câblé et j'aurais pu me faire très mal. Tout comme la séquence de moto, j'aurais pu me faire très très mal. Non, il y a pas mal de séquences où j'aurais pu me faire mal, bien évidemment, après. C'est bien encadré, hein, je suis avec des chefs cascadeurs, etc. On fait pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que quand tu fais tes cascades toi-même, le risque zéro n'existe pas. Et José aussi a fait lui-même sa séquence de moto.
José,
merci. Non, mais je dois dire qu'il y avait encore un autre facteur, c'est qu'il y a l'aspect déjà dangereux et t'arrives vraiment à passer tous les obstacles les uns après les autres. Mais il y en avait un autre qui était hyper impressionnant, c'est que je vais pas non plus vous raconter des choses trop dans le film, mais il y a une partie où il est quand même torse nu. C'est un très bel homme. Hein. Il a quand même ses six packs. Non, mais il a mis le paquet.
Il a donné son corps.
Le petit Tom Cruise à côté, il peut s'en faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faisait très très froid. C'est que nous, en fait, on a eu la chance de tourner, évidemment, et grâce à Dieu, avant le Covid. Mais c'est vrai qu'on a tourné pendant la période d'hiver.
Ah oui.
Et que Tarek, il est quand même toute la journée en tant que réalisateur, en train de regarder les rushs, en train de regarder les scènes les unes après les autres pour voir si les prises sont bonnes. Et il continue à se balader quand même torse poil, même s'il est protégé et tout. Et c'est vrai que c'était assez costaud, quoi. Donc voilà. Donc chapeau.
T'as vraiment tourné à Las Vegas, Tarek ?
Oui, on est vraiment parti à Las Vegas quelques jours pour tourner. Donc moi, j'étais comme un gamin.
J'imagine.
Tu vois, tu fais un film, donc déjà, je suis chanceux, tu vois, tu le fais avec tes copains, avec des gens comme José Garcia, Vanessa Guide, Marianne Chazelle, etc., t'es encore plus content. Et puis, tu te dis que tu tournes un bout de ton film aux États-Unis, tu vois, c'est fou, quoi, t'avais l'impression d'être dans un film.
José, qu'est-ce qui t'a plu en premier, justement, dans le projet de Tarek, quand t'as lu le scénario?
Bah écoute, moi j'affectionne particulièrement la comédie action. Je trouve que c'est un genre qui n'est pas assez travaillé. Il y a pas mal de gens qui s'y sont collés et à chaque fois je trouve ça délicieux, quoi. La comédie action, c'est jubilatoire. Deuxièmement, c'est l'ambition du projet. Je trouvais que c'était vachement bien qu'à chaque fois il y avait des scènes en tout cas qui sortaient du côté confortable et que voilà que Tarek allait faire plein de trucs et le fait de faire des cascades d'avoir des actions en moto.
Oui, en moto,
je trouvais ça génial. Et Tarek a passé son permis juste avant, ce qui n'était pas évident parce qu'on a quand même répété pas mal avec des cascadeurs. Mais c'est vrai que sur un circuit, il fallait quand même y aller, quoi. C'est quand même très casse-gueule. Il venait d'avoir son permis moto. Et j'ai trouvé que c'était ambitieux. J'ai trouvé que c'était vraiment bien, quoi. Voilà. Et donc, en plus, il m'a donné ce rôle, genre, qui me sied à merveille. Et qu'en plus, on a pu partager et qu'il m'a donné toute sa confiance pour que je puisse créer un personnage. Et ça m'a fait vachement plaisir parce que c'est vrai qu'on crée très, très, très peu de personnages comme ça dans les films. Et de pouvoir créer un méchant, aussi barré qu'il soit, c'était un joli cadeau. Voilà.
Alors, on va suivre évidemment les aventures de Ryan, un loser, un policier loser qui se fait mordre par un rat et qui attrape évidemment une maladie et qui, son médecin lui annonce du jour au lendemain qu'il a plus que 30 jours max à vivre et il décide de complètement refaire sa vie en 30 jours, en quelque sorte de tout changer de lui. Et on va tout de suite écouter la bande-annonce pour que nos auditeurs aient bien se rendent compte un petit peu de ce que c'est. Mais moi, je vous conseille vraiment, c'est mercredi au cinéma, on va pas s'ennuyer.
La voiture du rat approche.
On est en position, commissaire.
Il faut le prendre en flagrant délit.
Ne bouge pas.
Teddy ?
T'es qui toi ?
Ryan ! On habite dans la même cité.
Mais qu'est-ce qu'il fout ce con ?
Par contre, tu peux pas rester là parce qu'on est sur une grosse intervention, là ça risque de tirer dans tous les sens. Tu ferais mieux de partir.
Vas-y, c'est bon ! Allez, vas-y !
Il vous reste très peu de temps à vivre.
Très peu de temps, c'est-à-dire ?
30 jours. Max. Bien. Ça nous fera 35 euros, s'il vous plaît.
Prenez vite, il y a une prise d'otage.
Laissez-moi faire,
commissaire. Lève ton arme. Rien
que toi. Je vais reprendre l'enquête sur le rat.
Le meurtrier, ça.
On a déjà une piste. L'adresse de sa nourrice.
Encore de la paperasse.
Allez, dans un instant, la suite de notre spécial 30 jours max. José Garcia, Tarek Boudali, Julien Ruti, Vanessa Guide sont nos invités. Vous restez avec moi ?
Oui, avec plaisir.
Eh ben allez, on revient tout de suite, José. C'est parti ?
Avec plaisir.
Allez, et on va évoquer vos souvenirs de tournage aussi avec Julien et Vanessa dans un instant. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
Sans raison, il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long avec un peu d'ivresse. Viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi, s'inventer des princesses. Le patron te fait la misère.
C'est rien.
T'as le moral sur une civière.
C'est rien.
T'es encore fatigué d'hier.
C'est rien.
On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moi. Tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire, on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. Maison, tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse. Viens, on se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air.
C'est rien.
Dans ton café t'as mis du sel.
C'est rien.
T'es trop petit pour toucher le ciel.
C'est rien.
Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. On a presque plus rien à boire.
Mais on est là.
Le bar va fermer, tout est noir.
Mais on est là.
On continue sur le trottoir.
Mais on est là.
Hey.
On est là.
Mmh.
On est là.
On va encore rentrer trop tard.
Mais on est là.
Je crois que j'ai un œil au beurre noir.
Mais on est là.
J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. Oh, on est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
De retour pour notre spécial 30 jours max. Le film sort mercredi au cinéma. C'est le film à ne pas rater cette semaine. Allez, retournez au cinéma rien que pour voir ce film. Franchement, vous allez rire. Ça fait du bien en ce moment. Et croyez-moi, on en a besoin. Julien et Vanessa, on va évoquer vos souvenirs de tournage à tous les deux. Quel est votre plus beau souvenir? Et après, j'ai bien envie de te faire chanter un peu la bamba, Julien.
Et bah,
pour voir si t'as été doublé sur le coup.
Merci. moi, c'est. Écoute, je vais dire que c'est la bamba, tiens, puisqu'on va rester sur ça. Parce que du coup, je chante un moment dans le film et je me suis prends un peu pour une star. Et c'était un moment génial parce qu'il y a plein de figurants qui sont là, qui m'acclament. Il y avait une dame qui s'est tirée ma chemise et tout. J'y ai cru, quoi.
C'était une rockstar.
C'était génial. En plus, c'était ma première journée de tournage. Je connaissais pas encore Vanessa. Et on a dansé de manière rapprochée, hein, on va dire ça. Et du coup, ça nous a permis de nous rencontrer, de sympathiser très vite. Toi, t'as vécu comment ce moment-là, toi ?
Moi, j'ai tout de suite trouvé que je pouvais me coller à toi sans ambiguïté. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit ça va être un pote, il va pas être relou. Non, évidemment, oui, il y a rien de tel pour rencontrer un acteur avec qui t'as pas encore joué que soit une scène de baston, soit une scène d'amour, soit une scène de voilà, la coller serrée. Ouais. D'un seul coup, tout de suite,
ça met dans l'ambiance.
T'es dedans, quoi.
Et ton meilleur souvenir à toi, Vanessa, ta meilleure scène.
Écoute, il y en a plein. Franchement, c'était entre autres. Non, si. En plus, j'ai vraiment beaucoup aimé tourner cette scène de danse avec toutes les autres danseuses qui m'accompagnaient.
T'as un très beau costume. Bien. Vous verrez dans le film un très beau costume, Vanessa.
Ah oui, un costume qui a nécessité très peu de tissu. Ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, donc comme je disais tout à l'heure, la scène de bagarre, parce que c'est toujours très jouissif de mettre deux hommes d'environ 100 kilos à terre en moins d'une minute trente. Ça c'est super. Après, j'ai aussi beaucoup aimé toutes les scènes avec les bébés, parce qu'on a tourné avec plein de bébés différents, et en fait, ça a amené un calme sur le tournage. Et moi, je les avais souvent dans mes bras pour entre les prises, parce qu'ils retournaient pas forcément tout le temps vers leur maman. Et je trouvais que il y avait un côté très apaisant, très feng shui d'avoir des petits bébés dans les bras. Voilà, entre autres. Mais toutes les scènes étaient super chouettes à tourner, parce que super équipe.
Tarek, en tant que chef d'équipe justement, à toi, quel est ton meilleur souvenir ? Est-ce qu'il y a une scène que tu redoutais à l'écriture et que tu t'es dit en tant que réalisateur, j'ai jamais arrivé celle-là, par exemple ?
Il y a deux séquences qui sont un peu compliquées. T'as la séquence de funambule, j'en dirai pas plus, et la séquence justement de moto dont parlait José. Pour la séquence de funambule, c'était très compliqué d'avoir les autorisations. C'était pas évident. Et jusqu'au dernier moment, c'était mort. Et limite, la veille, on a pu avoir les autorisations, donc j'étais très content. Et la séquence de moto, parce que ça pouvait être très dangereux. Vu que j'étais sans casque et que j'étais torse nu, il faisait 2 degrés. Et je roulais à peu près à 100 km/h, donc.
Et il a plu, c'est ça l'histoire. Ouais. C'est qu'en fait, c'était gelé par terre, il a plu, et à chaque fois qu'on arrivait dans un virage, la moto elle chassait. Donc ça a de la gueule, hein, mais c'est vrai que bon, on faisait pas les malins.
Oui, j'imagine bien. Et tout s'est bien passé, ou est-ce qu'il y a une scène que tu redoutais et qui en fait au final s'est bien passé, ou une par exemple que tu redoutais pas et qui elle s'est terminée difficilement.
Écoute, non, je suis très content parce que tout s'est bien passé. J'ai eu quelques petits bleus, notamment justement sur les scènes de cascade, mais franchement rien de grave. Après, le seul truc qui était un peu compliqué, c'était le temps, la météo. C'est-à-dire que il faisait froid, il pleuvait quasiment tout le temps. Ça se voit pas à l'écran et tout.
Non, vous allez voir, c'est la magie du cinéma. Ça, ouais. C'est incroyable.
Ouais. Ah ouais, on a réussi à passer entre les gouttes.
Bon, ça c'est chouette. Philippe, t'as aidé un petit peu. Il t'a épaulé un peu sur ce tournage, Philippe Lachaud.
Non, écoute, en fait, quand moi je réalise, je réalise seul. Voilà, j'ai mon équipe avec moi, bien évidemment, qui m'aide, c'est-à-dire mon premier assistant, ma script et mon chef opérateur notamment. Après, c'est vrai que si moi j'ai un questionnement ou quoi, j'en parle aux copains, Julien, Philippe, leur demander leur avis. Et inversement, quand Philippe réalise, s'il a un doute, il demande à Julien et moi. C'est l'idée. Mais lui, il réalise ses films et moi, je réalise mes films.
On n'en dit pas plus, mais tu t'es bien vengé sur ces prothèses quand même.
Ouais, faut pas dire. Ouais.
On dit pas de quoi, mais ouais. Ni ce que c'est, hein. Mais tu t'es bien vengé quand même.
Je me suis bien vengé. Ouais, effectivement, comme je disais tout à l'heure, en fait, il m'avait bien gâté sur Nicky Larson avec le rôle de Pancho. Donc, moi, j'ai voulu lui rendre l'appareil en x2.
Bon, comment vous sentez à 2 jours de la sortie du film là?
Écoute, je suis stressé. Bien évident, je suis stressé.
Il y a eu de bons retours dans les avant-premières. Il y a eu vraiment du monde en plus.
C'est cool. Il y a eu du monde. On sent que pendant toute la tournée qu'on a fait, on a senti qu'il y avait vraiment une envie de revenir au cinéma et de se changer les idées en ces temps qui courent. Je pense que c'est bien de faire rire les gens. Et le plus beau des compliments qu'on ait eu, c'est de nous dire que pendant 1h30, les gens ont oublié leurs soucis. Donc on est très content. Après, forcément, on sait jamais. On peut pas savoir si un film va marcher ou pas, même à un jour de la sortie, même s'il y a eu de très bonnes avant-premières. On sait jamais, c'est le public qui décide et donc je suis un petit peu stressé et j'espère que ça marchera.
Tu vas participer au nouveau film de Philippe qui est en tournage ou pas toi?
Non.
Non, pas sur celui-là.
Bien sûr. On est en train de finir le tournage là du film de Philippe avec Julien. Donc,
c'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous dis tout.
C'est une excuse, mais c'est pour la bonne cause. Et on fait des allers-retours, nous, entre la tournée et le tournage.
Bon, bon courage. Je sais que le planning est chargé. Tu dois juste t'en aller là en projection. Je vais garder juste José, Julien et Vanessa. Parfait. Merci Tarek d'avoir
Merci
été
avec
nous.
Merci à toi, Alain. Allez, gros bisous.
José, on va évoquer un peu tes projets pour cette fin 2020, début 2021.
Oula, alors les projets, là, je pars sur le film de Anne Leny, qui est un film d'auteur, un très joli film qui s'appelle Le Torrent. Après, je suis en écriture aussi avec Nico Benamou, que mes camarades connaissent bien parce qu'il était co-réalisateur de Babysitting.
Et toi à fond, pour le
voilà,
coup.
Voilà, et pour moi à fond. Et puis, on attend le planning d'Astérix pour voir un petit peu quand ça arrive. Voilà, je vais rejoindre l'équipe d'Astérix. Et puis, j'ai une série aussi pour Netflix. Et puis, j'ai un film au Japon. Et puis, j'ai une sortie en Chine pour un film. Donc voilà.
Bon, on a beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui.
Tout s'accroche un peu. Il y a des chances que je sois pas vraiment en vie à la fin de l'année, que je chope un truc à base d'anthrax, de pangolin et de machin, parce que vu tous les endroits où je dois aller normalement, je sais pas ce qui va se passer. Mais l'année va être riche, mais comme pour nous tous, elle va être surtout pleine de rebondissements, de surprises. Et j'espère qu'elles seront moins moches qu'en tout cas.
C'est clair.
Avant.
On espère pour tout le monde, effectivement. Julien, tes projets, donc le nouveau film de Philippe aussi, auquel tu vas participer donc.
Ouais, voilà, que j'ai coécrit avec Fifi, Pierre Dudan et Pierre Lachaud, et qui se tourne en ce moment, on s'amuse bien, on rigole bien. Et puis après, une fois qu'on aura fini ce tournage-là, on va partir sur l'écriture du suivant.
Mais comment vous faites pour arriver à sortir un film par an? Je sais pas comment
On travaille non-stop.
Ouais, mais j'imagine bien.
Voilà, écoute, on a déjà commencé, à vrai dire, à écrire le suivant. Mais c'est le début encore là. Mais en fait, on travaille en continu, mais on en profite parce que du coup, maintenant, les producteurs, les distributeurs nous reçoivent avec les bras ouverts, quoi. Donc, nous, on vient proposer nos projets et on en profite tant que ça dure, hein.
Exactement. Et puis, vous avez bien raison, continuez à nous faire rire comme ça, on en a bien besoin. Et voilà, vos films sont des vraies bouffées d'oxygène.
Merci.
Vanessa, tes projets à toi?
Oui, eh bien, en dehors du film de Tarek, je serai à l'affiche d'un film qui s'appelle Music. Ok, j'avais une voix de quoi, d'annonceuse. Ok, donc, je prends une voix un peu comme ça. Ouais, en fait, j'ai une sortie de film, genre vers novembre, tu vois, un film qui s'appelle Music Hall, mais un jeu de mots parce que ça s'écrit H-O-L. H-O-L-E. Et non, bon, voilà, ça c'est un film franco-belge réalisé par David Mutzenbacher et Gaëtan Likens, qui est un peu dans la veine de Dick Enec ou C'est arrivé près de chez vous.
Ouais.
Après, je serai aussi à l'affiche d'une série qui s'appelle 3615 Monique sur la création du Minitel Rose dans les années 80.
C'est sur Canal, ça, je crois, non?
Non, c'est sur OCS.
OCS.
Vers le mois de décembre.
Très bien.
Voilà.
On va suivre ça, bien évidemment. Merci infiniment à tous les quatre d'être venus nous voir. Je vous rappelle que 30 jours max, ça sort mercredi dans les salles. C'est le film à ne pas rater, franchement, cette semaine de tout ce mois d'octobre. C'est notre coup de cœur du mois. Nous,
oui,
carrément.
Allez-y, il faut soutenir le cinéma. Merci.
Exactement. Merci, Julien. Merci à toi aussi.
Merci beaucoup.
Merci, mon José, encore une fois d'être venu nous voir.
C'est un bonheur d'être là avec vous. C'était une émission toujours fidèle à elle-même, c'est-à-dire pleine de joie, de bonne humeur et de professionnalisme.
Merci à toi, José. Merci, Tarek. Et on va se requitter avec un petit extrait. 30 jours max, c'est mercredi au cinéma.
Il vous reste très peu de temps à vivre.
Très peu de temps, c'est-à-dire
30 jours. Max. Bien. Ça nous fera 35 euros, s'il vous plaît. Determination to conquer
all my ambitions. Despite all the conditions. Venez vite, il y a une prise d'otage.
Laissez-moi faire comme ça.
Lève ton arme. Entraîne-toi.
Oh putain, j'ai réussi.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé avec Infidèle. Hein, vous savez, ça sera le final jeudi soir sur TF1. Et il a semé le trouble dans cette saison. Il est mystérieux, ce Gabriel. Et on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. C'est Tom Leb qui l'incarne. Bonjour Tom.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On s'était croisé du temps de Sous le soleil de Saint-Tropez où tu avais fait tes premiers pas de comédien. On t'avait découvert. Et là, c'est une autre histoire, Infidèle. Hein. C'est vraiment un personnage charismatique et en même temps mystérieux qui nous emmène un peu, un petit peu partout dans toutes les directions où on se demande, mais s'il est bon ou s'il est mauvais, ce Gabriel, finalement.
Ouais, ben justement, c'est ça qui était intéressant à explorer, c'était toute cette ambiguïté du personnage. Et après de nombreux échanges avec le réalisateur Didier Le Pêcheur, on a trouvé justement un juste milieu entre le côté sombre du personnage, mystérieux donc et énigmatique, et aussi le côté sentimental, puisqu'il l'est justement et il se fait prendre lui-même dans son propre piège.
Alors, ce qui est assez dingue quand même, c'est toutes les scènes que tu partages avec Claire Kem qui sont quand même osées pour certaines. Comment t'as vécu le tournage de ces scènes? Parce que nous, moi je l'imagine parce que voilà, je suis dedans un peu, mais le téléspectateur imagine pas que vous avez 50 personnes derrière quand même.
Ouais, ben c'est ça, exactement. En fait, il y a aucun moyen, je pense, de franchir cette ligne que j'appelle la ligne du respect, parce que on se met tous d'accord entre Claire, évidemment, qui est la première concernée, et ensuite le réalisateur. On se met d'accord pour chorégraphier ces scènes, pour que ce soit évidemment les personnages qui vivent la situation et non pas les acteurs, même si on sait tous que ce sont les acteurs qui interprètent les personnages, bien sûr. Mais je pense que les mots-clés sont la confiance et surtout l'écoute. Parce que voilà, en fonction des demandes de la comédienne, je pense qu'il faut savoir s'adapter et puis surtout ne pas franchir cette fameuse ligne.
Comment s'est passée ta rencontre justement avec Claire?
Très bien, très très bien. Dès les premiers instants, on s'est très bien entendu. Elle était très bienveillante et puis elle a fait de très très beaux efforts pour m'intégrer. Et elle est aussi généreuse sur le plateau qu'en dehors. Voilà, je garde un très très bon souvenir de ma relation avec Claire, qui dure encore aujourd'hui.
Alors, nous qui la connaissons effectivement un petit peu dans notre émission, c'est une fidèle de notre émission. On aime beaucoup Claire Kem. C'est vrai que c'est quelqu'un de très très généreux. Elle a vraiment dû tout faire pour te mettre à l'aise parce que tu arrives en saison 2, il faut quand même le dire. Toute l'équipe était installée depuis déjà une saison.
Exactement. Ouais, exactement. Donc, tu as un peu la sensation d'être le petit nouveau qui arrive, mais là, pas du tout. Là, pas du tout. Ça s'est très bien passé. C'est un plaisir.
T'as une anecdote à nous raconter un petit peu d'une scène que tu as tournée sur Infidèle, que ça soit avec Claire ou pas, hein, d'ailleurs.
Ouais, écoute, non, j'ai pas là de souvenirs là de tout s'est tellement bien passé, c'était fluide. Bah, j'ai surtout en fait, je dois dire, j'ai surtout beaucoup rigolé, notamment avec Jonathan Zakaï qui est devenu un très bon copain. On a eu plusieurs jours de tournage sur le même décor. On n'a pas vraiment de séquences ensemble, mais on était sur le même décor. Et je dois dire que le mec est un débit de conneries qui détend tout le monde et on a vraiment vraiment beaucoup rigolé sur le tournage grâce à lui, donc c'est un bon souvenir. Ça.
Oui, j'imagine bien, le connaissant un petit peu aussi, Jonathan, justement, était venu tourner Hôtel de la Plage dans notre région aussi. Qu'est-ce que tu garderas comme souvenir de nos beaux paysages de Nouvelle-Aquitaine, de la Côte Basque particulièrement?
J'en garde un merveilleux souvenir puisque je l'ai vu surtout en hiver et c'est pas le même hiver qu'on a dans le nord ici à Paris. C'est un hiver qui peut être pluvieux mais qui, dans les journées ensoleillées, peut taper 19-20 degrés. Donc c'est très agréable et puis qui n'aime pas une merveilleuse vue sur l'océan à la pause déjeuner. Puis voilà, l'odeur de l'air marin, de l'air iodé, c'est un confort, une qualité de vie exceptionnelle. Et d'en plus, travailler dans ces conditions, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs de tournage.
Alors nous, on le perçoit d'une façon, Gabriel, mais toi, comment tu le définirais?
Comme j'ai dit un peu au début, c'est un mec qui a un passé difficile et qui le traîne avec lui. C'est un démerdard. C'est un mec qui au fond ne veut vraiment pas qui veut du mal à personne, mais qui est obligé de jouer les coudes pour se démerder lui-même. Voilà, il a plus de contact avec sa famille, il est fâché avec son père et son frère. Mais sentimentalement, voilà, c'est quelqu'un qui a un vrai cœur. Il fait un métier à contre-cœur justement, mais dans la vie, ça reste quelqu'un de très vrai.
Alors on va voir comment on va se dénouer, hein, évidemment, les deux derniers épisodes d'Infidèle, hein, ça sera jeudi soir sur TF1. On écoute un petit extrait et on revient juste après avec toi, Tom, pour parler musique quand même aussi, parce que alors ça n'a failli que seulement, hein, cette année, mais tu aurais pu représenter, si le Covid n'avait pas été là, représenter la France à l'Eurovision. Donc voilà, tu chantes aussi et on va le faire savoir dans un instant. Infidèle, c'est jeudi sur TF1.
Comment t'as su?
Par ton frère, Egwene. Ça faisait du souci pour moi. Ne dérange pas, tu sais, tu fais ce que tu veux de ta vie. Je comprends mieux pourquoi t'as réagi comme ça l'autre jour quand j'ai réservé une chambre d'hôtel. Ça te rappelait le boulot, en fait. Tu m'expliques comment ça se passe? Je te les donne avant ou après?
Tiens, prends ça, ça va te remonter le moral. Alors, cette première nuit?
Bien.
Tant mieux. T'en avais besoin. Je suis content qu'on soit débarrassé de l'autre abruti. Ce mec te tirait vers le bas. À partir d'aujourd'hui, Tu as de nouvelles cartes en main.
Voilà, de retour avec Tom Leb qui est notre invité aujourd'hui. Alors Tom, après avoir parlé infidèle, on va parler un petit peu musique avec toi, puisque tu devais représenter la France à l'Eurovision. Je suppose que ça devait être une immense fierté et après une immense déception en quelque sorte hein, que cette Eurovision ait été annulée cette année.
Oui, alors une fierté c'est sûr. C'est un poste merveilleux que de représenter la France n'importe dans quel domaine, je pense. Mais et la déception, alors oui, parce que j'avais envie de vivre cette aventure à fond, mais de là à être effondré, non, puisque j'avais prévu ma carrière, quoi qu'il arrive, j'avais prévu ma carrière sans l'Eurovision, donc j'ai accepté tout de suite que ça me soit retiré de mon chemin, en fait.
Et puis à la fois, t'as quand même bénéficié un peu de la pub avant Eurovision, où on a parlé de toi, voilà. Mine de rien, quand même.
Bien sûr, ça m'a permis d'avoir une exposition et d'attirer des gens vers ma musique aussi, donc c'était tout bénéfique, en fait, tout bénéfique.
Dernier album, alors particularité quand même, puisque je crois que t'aimes bien hein, la Nouvelle-Aquitaine, tu l'as enregistré à Rochefort dans les studios de Crystal Productions, donc c'est vraiment un album qui a été enregistré dans notre région en plus.
Alors le premier album a été enregistré chez Crystal Productions, mais le dernier album je l'ai enregistré chez moi pendant le confinement justement, comme j'avais pas accès au studio et je ne pouvais pas sortir de chez moi, j'ai décidé de faire un album voilà enregistré avec mon iPhone et mes micros, quelque chose de très authentique et sincère, sans artifice, pour voilà répondre à ce confinement avec quelque chose de très sincère.
Alors c'est une question qu'on t'a posée souvent, Tom, mais je suppose que tu as un papa qui est fier de toi aujourd'hui. Et ouais. Est-ce qu'il te donne des petits conseils de temps en temps? Est-ce qu'il se permet de t'aiguiller un petit peu dans ce métier?
Oui, il m'en a donné, mais après c'est un métier tellement aléatoire dans lequel il n'y a plus de règles, je pense que il faut laisser les gens se construire, surtout dans un métier comme ça, laisser les artistes faire leurs erreurs et apprendre de leurs erreurs. Et je pense que rien n'est deux fois la même chose. Donc c'est très difficile de donner des conseils en disant tu ne devrais pas faire ci ou tu ne devrais pas faire ça parce que ou tu devrais faire ci ou ça, puisqu'aujourd'hui il y a tellement plus de règles que les choses peuvent arriver sans vraiment qu'on les voit venir. Il m'a conseillé, il a porté un regard très bienveillant sur ma carrière, mais il me l'espère aussi et c'est important, je pense.
Alors nouvel album, on va en écouter un extrait qui s'appelle Ground d'ici quelques instants. Où c'est que tu puises l'inspiration et comment tu l'as construit cet album? C'est toi qui a tout écrit, tout composé? Tu t'es fait entourer?
Ouais, tout écrit, tout composé tout seul dans ma chambre. Les inspirations étaient plutôt voilà, c'était très centré sur la réflexion, le futur, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, où est-ce que j'en suis. Donc voilà, je suis un petit peu sorti des histoires d'amour. Alors il y a des chansons qui racontent des histoires d'amour dans cet album, mais voilà, je me suis permis d'explorer d'autres terrains comme les remises en question, tout ça. Et Grown est justement une chanson que j'aurais écrit à 40 ans pour le moi de 30 ans en fait.
Ah oui, c'est pas mal dit ça.
C'est ça.
D'autres morceaux sur l'album ont une histoire particulière ou pas pour toi?
Oui. Il y a un morceau qui s'appelle You Got Something, qui est c'est un peu un amour impossible. Puis ce rap Responsible, qui est un petit peu une dénonciation du coronavirus et une attaque au coronavirus. Voilà, j'ai exploré plusieurs sujets.
Ouais, on espère bien l'attaquer, oui. Je suppose que tu as hâte peut-être aussi de défendre cet album sur scène un jour.
Bien sûr. Mais j'ai confiance. Je pense que les salles vont réouvrir un jour, certes. J'espère le moins loin possible. Et j'ai vraiment hâte de faire des concerts, c'est sûr. Nous, les artistes, on vit de ça. On vit que pour ça.
Et bien sûr. Tom, est-ce que t'as des projets dans la comédie? Est-ce qu'on va te revoir après Infidèle? Est-ce que t'as des choses déjà tournées? Est-ce qu'il y a des projets dans ce
sens?
Oui.
Bien sûr, il y a un film qui sortira au mois de décembre qui s'appelle C'est la vie de Julien Rambaldi, qui est une comédie magnifique sur la maternité.
Ça sera au cinéma.
Ouais, au cinéma. Et le 24 février, un film de Nicolas Cuche qui s'appelle Pour y gâter, qui est une comédie aussi.
Eh bien voilà, que des beaux projets qui t'attendent, Tom. En tout cas, on reste connectés ensemble et puis on sera là, évidemment, pour t'épauler aussi et pour te soutenir. On écoute Gwan,
ouais,
c'est donc le titre que tu nous offres aujourd'hui.
Merci.
Eh bien allez, c'est parti Gwan, c'est Tom Leb dans Chez ton écoute la télé. Merci à toi Tom et à bientôt.
Merci, au revoir. I remember I was living on my wandering alone. I was given many chances. Some turned to Paris on my way. There was no need to fight it, no need to break, no need to cry, no need to worry at all, at all. But I've grown. Some may say I didn't, but I've grown, I've grown. It was
Allez, on ne bouge pas dans un instant. Thierry Ragnaud et Nicolas Picard-Dreyfus, réalisateur du dernier épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie, nous rejoignent. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé est consacré cette semaine, eh bien, au petit meurtre d'Agatha Christie. C'est la fin d'une époque pour les petits meurtres. Ça va être, bien, la dernière fois que l'on va suivre des aventures inédites avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoire et Elodie Frank. Et ça va être à la façon d'une comédie musicale, une sorte de cadeau pour les fans de cette série que vous allez voir donc vendredi soir. Et le tout réalisé de main de maître par Nicolas Picard-Dreyfus, qui est justement en ligne avec nous. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce que je disais, un cadeau pour les fans, une comédie musicale pour terminer cette deuxième époque des petits meurtres d'Agatha Christie. Je crois que là, c'est un challenge pour un réalisateur, en plus, de tourner ça, en fait, à la façon d'une comédie musicale.
La phrase n'est pas de moi, mais on savait pas que c'était impossible de faire ça à la télé, et pourtant on l'a fait. Oui, on a tourné ce dernier épisode avec 13 tableaux, je dirais, avec des chansons. On avait tourné 3 épisodes en même temps, et celui-là en comédie musicale. Voilà.
Qu'est-ce que ça change?
Et ça change que les comédiens doivent chanter, doivent danser, parce qu'ils ont tout fait eux-mêmes. Donc pendant qu'on tournait les 2 premiers épisodes, quand ils avaient des moments de libre, eh bien ils avaient travaillé les répétitions de danse, de chant, etc. Tous les week-ends aussi, pour pouvoir être prêts. Là, quand nous on allait tourner, on tournait cet épisode musical en dernier. Voilà.
Nicolas, comment on se prépare à réaliser un épisode comme ça? On se refait les classiques, les Demoiselles de Rochefort par exemple?
Oui, on se refait tous les classiques, on se refait les Minelli, Un Américain de Paris, Brigadoon, on se refait tous les films de Gene Kelly avec Stanley Donen. Donc c'est plaisant de revoir tous ces chefs-d'œuvre. En même temps, on est dans des temps de tournage télé, donc On sait qu'on n'aura pas les moyens de tout ça, mais on s'inspire de tout ça. J'ai regardé, revu aussi La La Land, et lui aussi, Damien Chazelle, s'est beaucoup inspiré de toutes ces comédies musicales. Donc, il y a dans La La Land des clins d'œil, et dans ce dernier épisode de la saison 2, beaucoup de clins d'œil à toutes ces comédies musicales.
Alors, je suppose, Nicolas, que pour mettre en scène un épisode comme ça, vous avez dû vous faire aider par une chorégraphe. Qui c'est qui a participé comme ça à ce tournage pour vous épauler?
Eh bien, c'est Corinne Deveau, formidable chorégraphe, qui a fait beaucoup de films pour le cinéma, beaucoup de spectacles vivants également. Et voilà, on a travaillé ensemble. Donc, toutes les musiques ont été composées bien en amont, parce qu'il fallait que les comédiens, pour répéter les danses, connaissent leurs chansons.
Et oui, bien sûr.
Les chansons avaient été écrites bien en amont et composées, et les comédiens les avaient apprises, de manière à pouvoir, dans toutes ces répétitions de danse, pouvoir chanter et danser. C'est vraiment un gros travail, surtout qu'on était, nous, en train de tourner deux autres épisodes. Voilà.
À la fois, c'est jubilatoire de terminer de cette façon-là, surtout qu'en plus, il y a quand même un clin d'œil dans cet épisode, un cadavre au petit déjeuner, puisque vous avez la venue d'Antoine Duléry. Donc ça, c'est chouette, c'est un clin d'œil un peu à la première époque que l'on a vécu quand il tournait les premiers épisodes avec Marius Colucci.
Ben oui, c'est un petit peu ça. L'idée était de rassembler un peu la première époque, de ramener un petit clin d'œil de la première époque pour finir cette deuxième époque, surtout que la saison 2 des petits meurtres s'arrête dans les années 50-60, mais il y a une saison 3 qui redémarre et qui, elle, va se passer dans les années 70. Donc, les petits meurtres avec Marlène, Son Laurence et Alice Avril disparaissent, mais il y a une nouvelle version qui va arriver bientôt l'année prochaine sur les écrans.
Alors justement, j'allais y venir, ça y est, la troisième époque, parce que si une page se tourne, une autre est en train de s'écrire, et donc les tournages ont démarré juste après le confinement pour le coup, et donc ça y est, on va découvrir enfin cette troisième époque des petits meurtres d'Agatha Christie qu'on découvrira bientôt sur France 2, avec du coup trois nouveaux comédiens.
Avec du coup trois nouveaux comédiens, avec des nouveaux décors, des nouveaux looks, un nouveau commissariat, puis tout est transformé, changé. Et nous sommes en 1971, 72. Georges Pompidou est président et nous avons la première femme nommée au poste de commissaire de police et qui arrive dans un commissariat.
Et qui est interprétée par?
Et qui est interprétée par Émilie Garouacan, qui aura un adjoint qui est interprété par Arthur Dupont, et qui sera aidé par une psychanalyste qui est interprétée par Chloé Chaudois. Voilà.
Et bien voilà, du beau monde qu'on découvrira bientôt.
Voilà, et on vient de terminer le tournage des deux premiers épisodes. Le tournage de la suite va redémarrer bientôt, comme tout s'est un petit peu décalé.
Bien sûr.
Avec le confinement, voilà. Donc, on vient de les terminer, de les mettre en boîte.
Bon, on peut espérer peut-être voir un jour Samuel Blandine ou Élodie faire un petit clin d'œil dans la future saison, on verra.
Eh ben, écoutez, on verra, on pourrait tous les rassembler dans un épisode, ça serait drôle, effectivement.
Et oui, tout est possible avec les petits meurtres d'Agatha Christie. En tout cas, on va découvrir donc ce dernier épisode inédit de la deuxième époque. Ça sera donc vendredi soir à 21h10 sur France 2, juste après Un si grand soleil. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous pour en parler, de nous avoir donné ces premières infos sur la troisième époque qui a démarré en tournage. Merci, à bientôt, Nicolas.
À bientôt, au revoir.
Et tout de suite, voici la bande-annonce.
Continue, l'aventure nous appelle. Ah oui, vraiment, toutes les saisons sont belles. L'avenir est là au bout de la rue. Dansons tant que nos corps le perdent. Dansons jusqu'au bout de la vie. Le vent emporte la nostalgie.
Allez, coup de cœur télé, cette semaine consacrée à Plus belle la vie, et c'est un retour qu'on n'espérait plus, clairement. Il arrive demain à l'antenne et je sais que tous les fans sont sur le pied de grue. Ils attendent avec impatience le retour de François Marcy dans Plus belle la vie, 14 ans après être parti. Un clin d'œil, c'est vrai, en 2012 pour un anniversaire de la série, mais là, il revient eh bien à plus long terme. Et Thierry Ragneau est notre invité. Bonjour mon cher Thierry.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir et voilà, un retour en fanfare, ça y est. Tu vas répondre en fait en quelque sorte à l'aide de Thomas, qui ne sait plus comment gérer la situation évidemment avec Roland face à cette maîtresse avouée et puis ses deux enfants cachés depuis 16 ans.
Sacré paquet empoisonné quand même, sacré cadeau. D'abord, en 2004, je suis fils unique et la vie est parfaite.
tout d'un coup, 6 mois après, arrive un frère caché. Et puis là, tout d'un coup, une autre famille. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce souk? Et donc, ce brave François reçoit un coup de fil à la Nouvelle-Orléans. C'est donc Thomas qui lui dit « Reviens vite parce que je suis complètement déplacé et je ne sais pas qui fait quoi. Papa est en train de tout vendre, de plus avoir d'héritage. » Enfin voilà, il est affolé. Et ce brave François dit « Bah écoute, j'avais très envie de revenir, je reviens. » Et voilà, et c'est parti. Et là, c'est la catastrophe.
Oui, parce que tout va pas se passer bien, comme prévu, évidemment.
Ben, évidemment. Alors, c'est ça qui est formidable. Michèle Podrosnik, la productrice
historique,
nous disait toujours en 2005, elle nous disait ça. Vous savez, sur Plus belle la vie, les personnages, ils vivent en un mois ce que nous, on vivrait en 10 ans dans la vie. Et donc, c'est insensé, quoi. Et là, je trouve que ils ont fait très fort, les scénaristes, parce que il y a des gens qui arrivent, on apprend que c'est l'ex du père, qui a déjà un demi-frère, comment ça va se passer, arrivent les enfants, mais tout est caché. On sait pas vraiment qui est qui, on sait pas qui fait quoi, on sait pas qui va faire quoi, on sait pas comment vont réagir les gens. Et le fait d'appeler François à la rescousse, tout le monde se dit, ah, super, bah, super pour qui?
Et oui.
C'est compliqué, super pour qui? Pour François, parce qu'il a envie de revenir, parce qu'il a envie de revoir son père, son demi-frère avec qui il s'entend moyennement bien, son père avec qui il s'entend pas très très bien. À cause de quoi? À cause de la mort de sa mère, à cause de l'apparition de son frère. Qu'est-ce qu'il va faire de l'apparition de cette nouvelle famille, de cette femme qui a l'air fort sympathique, ma foi, comme ça au premier abord, avec ses deux enfants qui ont l'air sympathiques aussi, mais est-ce que ça cache pas des choses, tout ça? Et du coup, je trouve que c'est super bien écrit. C'est super bien écrit parce que c'est toujours aussi incroyable, puisque Plus belle la vie est incroyable, mais là, ils se sont ancrés, les auteurs, dans une réalité que tout le monde connaît. Un truc tout simple. En fait, la situation est très simple. Voilà, c'est des gens qui débarquent, on ignorait leur existence, et puis c'est tout. Mais non, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce que ça entraîne toute une famille, ça entraîne des individualités, et personne ne sait comment vont réagir les gens. Et ça, c'est super. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, là,
c'est le moment de revenir.
Ah ouais, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien. Bien trouvé, c'est bien écrit, c'est intéressant, les gens peuvent s'identifier facilement. Il n'y a pas de choses totalement romanesques comme il peut y avoir quelquefois. Là, c'est romanesque parce que c'est une fiction, donc de toute façon, voilà. Mais c'est quand même très ancré dans la réalité et ça marche super bien. La dualité romanesque et réalité fonctionne très bien.
Alors, est-ce que ça va être l'occasion peut-être d'un retour aussi? Parce que les Marcy vont revenir un peu sur le devant de la scène. On avait beaucoup vu les Fedala, on avait vu beaucoup de familles. Mais c'est vrai que les Marcy, bah, c'était un petit peu éparpillé après le départ de Nounia Cossins, qui est revenue, elle, Dounia aussi. Alors, ouais. La question qu'on m'a posée tout de suite, évidemment, par message, qu'on m'a envoyé, vite, pose-lui la question. Est-ce qu'on aura peut-être la chance que tu fasses un retour avec Lucas ou pas?
Alors ça,
pas tout de suite, peut-être.
Là, à l'instant, tout de suite. Enfin, c'est pas prévu. C'est vrai que moi, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu Lucas et j'ai eu Geoffrey au téléphone. Il m'a dit, écoute, ça se discute, mais pour l'instant, voilà, c'est comme moi. Ça a mis des années pour que ça se fasse. Là, pour l'instant, il n'est pas encore là. Voilà. Donc, mais c'est tout ce que je peux dire. Après, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la famille Marcy, c'est une famille qui est très importante, qui est très présente, qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a été une famille extrêmement réelle. On a énormément travaillé avec Geoffrey, Dounia, Cécilia et moi pour créer une vraie famille. Donc on se voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On travaillait énormément. Et je pense qu'on a peut-être réussi pas mal notre coup de créer une espèce de vraie fausse famille. Alors les vraies fausses familles comme ça, quand c'est dans un feuilleton comme Plus belle la vie, c'est très agréable. Et en même temps, c'est compliqué à faire revenir parce que ça a un poids absolument énorme. Et c'est un poids qui peut éventuellement déstabiliser le bon fonctionnement d'une série. On va se focaliser tout d'un coup sur cette famille qui avait tellement de poids il y a 17 ans, on la revoit, on va peut-être vouloir lui redonner le même poids au détriment d'autres personnages qui sont là depuis longtemps aussi. Parce que la famille Marcy, elle existait très peu de temps, elle existait 2 ans, c'est tout. Mais après, effectivement, tout le monde est parti à droite à gauche.
Elle est restée ancrée, voilà. Malgré tout, avec Roland et Thomas quand même.
Complètement, tout à fait, mais c'était plus que ça. Et là, on s'en rend compte maintenant. Quand je suis revenu, on s'est revu avec Michel Corde et Laurent Kérusoré. Et il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, forcément. Bah parce qu'on est à la base, c'est vrai qu'on est à la base de la construction du feuilleton et qu'on a créé quelque chose qui est ancré dans les gens. Moi, je ne suis resté en fait que 1 an et demi sur 17 ans de feuilleton. C'est rien.
Et je suis sûr que ça fait 15 ans qu'on te demande inlassablement quand c'est que tu reviens.
C'est ça.
Mais oui.
Et c'est ça qui est étonnant. Donc, je pense que voilà, les scénaristes et les réalisateurs, les producteurs et les comédiens, on avait super bien bossé sur le truc. Et maintenant, Voilà, maintenant c'est une famille incontournable, mais il faut faire attention. Le plus belle de la vie, c'est énorme, ça fait 17 ans, c'est très costaud et en même temps c'est très fragile. C'est vraiment un équilibre à trouver. Donc en faisant revenir toute la famille d'un seul coup, ça ne va pas déstabiliser autre chose et mettre en péril le feuilleton. Moi, je pense que la chaîne des producteurs et des auteurs doivent penser à ça aussi. Donc, faire revenir les anciens, très bien, mais attention, il ne faut pas que tout d'un coup, ça déstabilise tout et que ça devienne le feuilleton de la famille.
Non, mais je pense que déjà, les fans vont être très, très heureux de vous retrouver tous. Ça, j'en suis certain. Ça a dû te faire un petit pincement au cœur quand même. Ça a dû te faire une émotion particulière de revenir comme ça sur ce décor du Mistral, sur ce qu'on appelle le Studio 1000, 8 ans après l'avoir quitté. Ça a dû te faire un petit pincement quand même, j'imagine.
Oh bah c'est complètement incroyable. Ça m'a fait même un pincement quand je suis sorti de la gare Saint-Charles, que j'ai pris une voiture et un régisseur m'attendait pour me conduire au studio. J'ai pris la route, j'ai vu la barrière se lever, je suis rentré dans le parking, on a ouvert la porte et paf. Même avant d'entrer dans le mille, j'ai vu le bâtiment, quoi, qui est là, qui n'a pas changé et qui en même temps a beaucoup évolué parce qu'il y a énormément de monde. Avant, on était 15 personnages récurrents, maintenant ils sont 45, un truc comme ça, personnages très importants. Et puis ensuite, alors évidemment, le truc le plus incroyable, c'est quand je suis passé au HMC, habillage, maquillage, costume, HMC, et là, j'ai vu les costumes, mais les costumes, ils ont plus d'un kilomètre linéaire de costumes. Un kilomètre. En 2004, on était 15, on avait quoi, une petite pièce de 20 mètres carrés bourrée de costumes. Là, mais c'est fou. C'est trois magasins de la rue Saint-Ferréol remplis à Marseille. C'est incroyable. Donc ça m'a fait un choc absolument incroyable. Après, on arrive sur le plateau 1000. Alors là, il y a tout qui remonte, évidemment. Extraordinaire.
T'as retrouvé ton numéro ?
Oui, j'ai toujours le numéro 5.
Ah là, c'est ça qui est incroyable. Parce que ce que les auditeurs savent peut-être pas, c'est que sur Plus belle la vie, chaque comédien a un numéro dans son ordre d'arrivée. Et évidemment, comme t'as fait partie des tout premiers, du tout premier épisode, bah, t'es dans les premiers, alors qu'aujourd'hui, on est rendu à pas loin de 4000, hein, je crois.
C'est ça. Oui, numéro marqué 4271, je sais pas quoi, et moi, c'est mon numéro 5. Mon petit François, numéro 5. C'est formidable.
Bon, en tout cas, on va suivre ça, hein. Demain, c'est le grand retour de François Marcy au Mistral. Et moi, je vous conseille d'être tous, évidemment, eh bien, 20h20 sur France 3, devant votre téléviseur pour ce retour historique du personnage numéro 5 de la série. Voilà, on le respécifie, oui. Mon cher Thierry. Je sais que t'as fait beaucoup de théâtre ces dernières années. J'ai eu l'occasion de te croiser avec Cécilia. Est-ce que t'as d'autres projets aussi dans ce sens pour 2021 qui se profilent?
J'ai commencé mercredi dernier à Paris, une pièce, on parlait de romanesque tout à l'heure, c'est drôle ça, une pièce d'Edmond Rostand qui s'appelle « Les romanesques » au pluriel. Et c'est une des premières pièces d'Edmond Rostand. Et on joue ça au Théâtre du Ranelagh à Paris dans le 16e, du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 17h. C'est une pièce magnifique, c'est une pièce d'une drôlerie absolument incroyable. Et d'après ce que j'entends, très jubilatoire pour les spectateurs aussi. C'est jusqu'au 31 décembre a priori.
Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous et puis bonne chance pour la suite. À très très vite, j'espère.
Oui, avec plaisir, à très vite, mais j'espère bien.
Allez, à bientôt.
Bonne journée à tous en tout cas. À bientôt.
Allez, on se quitte avec un petit extrait du retour de Thierry Ragnaud dans Plus belle la vie.
Il refait le coup des enfants cachés.
Comment ça, des enfants? Ils sont combien cette fois?
Deux. Des jumeaux de 15 ans. Il les a installés dans mon appartement, il a engagé Sophie dans mon bar et il a vendu le cabanon qui était destiné à Baptiste.
Attends, Thomas, calme-toi, je comprends rien.
C'est qui Sophie? Et pourquoi il a vendu le cabanon?
Mais Sophie, c'est une punaise de lit. Papa a eu une aventure avec elle il y a 15 ans et elle est revenue pour nous pourrir la vie. Je sais plus comment m'en débarrasser, moi.
Tu veux que j'appelle papa?
Malheureusement, ça sera pas suffisant. C'est le bordel ici. Le mieux, c'est que tu reviennes. Et vite.
Eh ben, mon petit François, il est temps que tu reviennes au Mistral. Marseille... I'm back.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, du beau monde encore lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous reste très peu de temps. On recevra l'équipe du film Poli avec Patrick Timsit, Julie Gaillet et Nicolas Vanier qui seront nos invités. Et pour la première fois dans Chute, on écoute la télé, Mimi Mathy sera avec nous pour nous parler d'un épisode inédit de Joséphine Ange Gardien et de ses projets. Donc vous le voyez, on va encore pas s'ennuyer dans Chute, on écoute la télé.
Gaoul. FM.
Écoutez-vous.
Allez, n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé, c'est toute la semaine avec La Quotidienne à 8h40, 13h15 et 19h sur Kaolin. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chut, on écoute la télé. Et téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée ce soir à 19h. Et je vous retrouve donc également lundi prochain à 14h et 19h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Kaolin.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre magasin But de Saint-Thierry-la-Perche. Ameublement, literie, électroménager, décoration. Et pour tout projet de cuisine, l'équipe de projet et conception vous attend. Zone commerciale d'Arfeuil, route de Limoges, à Saint-Thierry-la-Perche.